6h, 7h, les petits matins de France Culture. Les informations, Margot Delpierre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le gouvernement souhaite avancer le couvre-feu de 20h à 18h dans certaines régions. L'extension du couvre-feu sera proposée dans les territoires où le virus circule rapidement, comme dans l'est de la France. Ces mesures seront applicables à partir de samedi, a expliqué le ministre de la Santé hier, Olivier Véran. 20 départements seraient visés, les Ardennes jusqu'aux Alpes-Maritimes, en passant par l'Allier et le Bas-Rhin. Dans son dernier avis, le conseil scientifique estime qu'une reprise incontrôlée de l'épidémie est probable en janvier, à cause du surcroît de contamination pendant les fêtes. Nous y reviendrons dans le journal de 6h30. Le plan du gouvernement Trump pour la distribution des vaccins est très en retard. Déclaration hier du président élu des États-Unis. Joe Biden prendra ses fonctions le 20 janvier. Un peu plus de 2 millions de personnes ont reçu une première injection. Ce nombre est loin de l'objectif affiché par l'administration Trump, à savoir 20 millions de personnes vaccinées d'ici la fin de l'année. L'accord post Brexit sera signé aujourd'hui d'abord par les présidents de la Commission européenne et du Conseil à Bruxelles, ensuite à Londres par le Premier ministre Boris Johnson. Les députés britanniques vont débattre du texte. Son adoption fait peu de doute. Le texte sera voté faute de mieux. Les sénateurs argentins débattent en ce moment d'une loi légalisant l'avortement dans le pays sud-américain, très divisé sur la question. Avant un vote qui s'annonce serré, l'Argentine est un pays très catholique. Nous en parlerons aussi à 6h30.
C'est l'un des plus grands romans d'aventure du 19e siècle, Le Capitaine Fracasse, sur France Culture.
Je ne saurais paraître sur un pied digne de mon nom. Je ne sais même pas, en réunissant toutes mes ressources, si je pourrais arriver jusqu'à Paris.
Mais vous n'êtes pas obligé d'entrer triomphalement dans la grande ville.
Déclaration d'amour à la langue, le style précieux des salons comme l'argot des tavernes. Suivons-le, vent debout. Le Capitaine Fracasse de Théophile Gauthier, le feuilleton de lundi à vendredi à 20h30 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Alors que Joe Biden prend la tête d'un pays fracturé où la pandémie s'accélère, quels sont les grands chantiers économiques qui attendent le nouveau président ?
Sur France Culture, Tiffaine de Rocchini.
Premier défi, répondre à la crise sociale qui secoue les États-Unis. Le chef de l'État devra ensuite trouver les moyens de financer son ambitieuse relance verte et engager un bras de fer avec les géants du numérique dont le pouvoir ne cesse de grandir. Pour en parler, nous recevons trois grands économistes installés aux États-Unis : Gabriel Zucman, Thomas Philippon et Pierre-André Chiapori.
Entendez-vous l'écho ? Du lundi au vendredi à 14h sur France Culture et sur franceculture.fr.
Tout de suite, le monde vivant, Bruno David, aujourd'hui des bijoux dans les égouts.
Dans les entrailles de la ville, les canalisations s'entrecroisent. Des géantes pour les métros, des petites pour le gaz ou l'électricité, et d'autres pour nos eaux usées, les égouts. Dans l'imaginaire collectif, les égouts sont plutôt repoussants, leurs eaux pestilentielles, pleines de bactéries, d'araignées, de blattes ou de rats. Mais la biodiversité des égouts ne s'arrête pas à cette courte liste. Des scientifiques, la curiosité chevillée au corps, ont eu l'idée de s'enfoncer dans les égouts. Ils ont ainsi échantillonné la microfaune et la microflore des eaux des égouts parisiens. En utilisant des techniques de génétique moléculaire, ils ont traqué les micro-eucaryotes, autrement dit des organismes certes microscopiques, mais assez perfectionnés pour que leurs cellules aient une machinerie cellulaire élaborée. Bref, des êtres vivants minuscules, mais complexes. Le séquençage de l'ADN a alors parlé. Et là, c'est le feu d'artifice. Les chercheurs ont identifié près de 7000 espèces constituant tout un écosystème. Premier résultat, il n'y a pas de différenciation au sein de la ville de Paris. En somme, quartiers riches ou pauvres, quartiers hauts ou bas, quartiers denses ou spacieux, on a tous les mêmes égouts. Second résultat, parmi toutes ces espèces, les plus nombreuses sont les diatomées. Mais les diatomées, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des micro-algues mesurant quelques millièmes de millimètre, mais si prolifiques qu'elles forment un feutrage brun sur les parois humides des égouts. Dit comme cela, pas très ragoûtant. Mais prenez un microscope électronique à balayage. Enfin, en supposant que vous en ayez un. La magie opère. La cellule des diatomées fabrique un minuscule squelette siliceux, très résistant, en forme de boîte, une sorte de petit coffre-fort qui protège le reste de la cellule. Imaginez de microscopiques piluliers circulaires aux couvercles ornés de perforations régulières. Imaginez-en d'autres de forme ovoïde avec une croix parfaite qui les traverse, la boîte ourlée d'un rebord parfaitement lisse. Imaginez un orbe régulier avec des perforations devenant progressivement de plus en plus fines. Des bijoux insoupçonnés. Ces petits bijoux ne pullulent pas que dans les égouts. Ils sont une composante majeure du plancton végétal, en mer comme dans les eaux douces. L'abondance des diatomées fait qu'elles ont pu s'accumuler au fond des mers ou des lacs jusqu'à former une roche, la diatomite. Les gisements de diatomite, roches siliceuses très légères mais très abrasives, sont exploités pour divers usages. On retrouve les diatomées en cosmétique, dans le dentifrice, comme abrasif industriel, et même pour stabiliser la nitroglycérine dans la fabrication de la dynamite. Des mini coffres-forts en forme de bijoux dans la dynamite et les égouts. Inattendu, non ? De quoi tisser un lien imaginaire avec le chemin emprunté par Albert Spaggiari, qui était passé par les égouts pour accéder au coffre de la Société Générale de Nice. Il ne pouvait savoir que son chemin était pavé d'autres bijoux.
Allez, on s'élève, 6h, 7h, les petits matins de France Culture.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le réveil culturel. On n'est pas beaucoup allé au cinéma cette année, c'est vrai, pour des raisons ô combien indépendantes de notre bonne volonté, mais on a semble-t-il vu beaucoup de films dans nos confinements imposés. 2020, drôle d'année, une année très cinéma avec peu de sorties au cinéma. Ce matin, le réveil culturel en guise de bilan de fin d'année donne la parole à l'éminent critique et partenaire de l'émission, Michel Simon, directeur de la revue Positif. Une carte blanche sous forme de top 3, les 3 meilleurs films de l'année selon Michel Simon.
Le réveil culturel. Mercredi, cinéma.
Une saga familiale dans la Chine contemporaine, le portrait de Michel-Ange, le maître de la Renaissance par un réalisateur russe, et l'adaptation très post-MeToo par une cinéaste américaine d'un classique de la littérature enfantine du 19e siècle. Voici donc le choix de Michel Simon, les 3 meilleurs films de l'année 2020 selon Michel Simon. Bonjour Michel Simon.
Bonjour.
D'abord, merci d'avoir accepté ce jeu-là, de faire le bilan de l'année à partir des 3 meilleurs films ou de ce que vous considérez comme les 3 meilleurs films qu'on a pu voir au cinéma en salle cette année en 2020, même si les salles ont été beaucoup fermées durant cette année très très particulière. Mais commençons donc par ce film chinois.
Oui, alors d'abord, je voudrais dire que c'est plutôt les 3 films que j'ai aimé le plus, plutôt que meilleur, parce que meilleur, c'est toujours très difficile à définir. C'est une année finalement assez riche, malgré tous les obstacles qu'elle a connus, on le sait pourquoi. Il y a des films comme Le cas Richard Jewell, comme On dîne, comme Les choses qu'on dit, Les choses qu'on fait. Enfin, il y a eu beaucoup de films vraiment remarquables. Moi, j'ai voulu parler de 3 films qui m'ont particulièrement touché et qui n'ont peut-être pas eu le retentissement qu'ils auraient pu avoir. Voilà, et qui ont eu un certain succès, bien sûr. Et pour commencer, évidemment, cet événement du Festival de Cannes, l'année dernière, les séjours dans les monts Fuchun, qui est sorti en début d'année d'un jeune metteur en scène de 26 ans qui a travaillé 3 ans sur son film. Le film n'a pas été retenu par le festival officiel. Il a été l'événement, peut-être l'événement du festival en matière de découverte d'un énorme talent de Gu Xiaogang, donc ce jeune metteur en scène. Séjour dans les monts Fuchun. Alors c'est un film d'abord qui fait dialoguer la peinture avec le cinéma, puisque la peinture de paysage, en particulier centrée sur les montagnes et l'eau, entre le fleuve et les massifs montagneux, c'est un thème récurrent dans la grande peinture classique chinoise, et le film l'illustre, puisque tout se passe dans un village, justement, au bord d'un fleuve, surmonté par des masses rocheuses. Et d'autre part, c'est un autre thème propre au cinéma asiatique, japonais ou chinois, qui est la famille. C'est l'histoire d'une famille, d'une grand-mère qui va bientôt mourir, entourée de ses petits-enfants et de ses enfants. Et donc, c'est une sorte de chronique familiale, mais magistralement racontée, pas du tout avec les canons dramatiques habituels. Donc, c'est un film, à mon avis, extrêmement marquant, et on attend, évidemment, le deuxième film de ce très très jeune cinéaste.
Un cinéaste autodidacte d'ailleurs, Michel Simon.
Absolument, un cinéaste autodidacte. Ça avait d'ailleurs fait la couverture du numéro de janvier de Positif.
Séjour dans les monts Fuchun, donc par un réalisateur qui n'a pas fait d'école de cinéma.
Voilà, c'est Gu Xiaogang.
Et donc,
Gu, vous savez qu'en chinois, c'est le premier nom qui est le nom de famille, donc il s'appelle tout simplement Gu, G-U. Mais Xiaogang, c'est son prénom.
Alors, le film est sorti en salle en début d'année, hein, c'est-à-dire avant la pandémie, c'était en janvier 2020. Vous venez de le dire, Michel Simon, c'est une chronique familiale, mais une chronique familiale plutôt méditative, où on suit les pérégrinations de quatre fils et de leurs enfants, réunis auprès de leur mère et surtout de leur grand-mère qui va bientôt mourir, mais qui fête ses 70 ans. Et donc, on suit cette famille durant quatre saisons, hein, c'est-à-dire qu'on voit bien comment la ville change. Et c'est aussi l'autre thème de ce film, hein. c'est comment se construit la nouvelle Chine sur les décombres de l'ancien monde.
Qui est également un thème qui a été traité déjà, effectivement, dans le cinéma chinois contemporain, c'est certain. Je dois dire que le film a tout de même eu 100 000 spectateurs, au moins, donc c'est pas non plus un film clandestin.
Il y a un côté documentaire dans ce film, où si vous l'aimez à ce point, ce film, c'est aussi parce qu'il y a une écriture cinématographique propre à ce jeune cinéaste.
C'est incontestablement l'écriture cinématographique qui m'intéresse au plus haut point. Sinon, je lirais un article dans Le Monde ou dans Le Figaro ou dans Libération sur la Chine d'aujourd'hui. Le cinéma, c'est tout de même un art. Et ce qui est frappant, c'est effectivement la nonchalance avec laquelle il filme, l'extraordinaire liberté. Il y a une sorte de travelling, par exemple, qui suit deux personnages pendant une quinzaine de minutes au bord du fleuve, qui est absolument fascinant. Alors, ça fait partie de ce slow cinéma, comme disent les Anglais, les Américains, c'est-à-dire ce cinéma qui a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années, où on prend son temps. Alors, évidemment, il faut avoir une certaine patience. Il ne s'agit pas d'un James Bond.
Séjour dans les monts Fuchun, c'est aussi une pièce artistique. C'est un rouleau du 14e siècle. C'est une peinture chinoise, pour expliquer le titre.
C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est le rapport avec la peinture chinoise classique qui est un rapport entre le fleuve et la montagne. C'est le thème d'énormément de toiles, de rouleaux chinois. Et le film, effectivement, reprend cette thématique qui se joint à celle d'une famille marquée par la mort prochaine de la grand-mère.
Un film qu'on peut voir désormais en DVD. Et c'est un film qui a été plutôt bien accueilli par la critique, Michel Simon.
Pas plus que bien accueilli, c'est un des événements de l'année, c'est une des grandes découvertes de l'année, et il avait été également une découverte du Festival de Cannes, qui n'avait pas admis le film en compétition, mais qui avait été révélé par la semaine de la critique.
Je vous dis ça parce que le second film de votre sélection des trois films que vous avez aimés, lui, en revanche, n'a pas été aussi bien accueilli par tout le monde.
Michelangelo. Santità. Io non ho limite. Ogni mio progetto va sempre oltre il limite delle mie forze.
Sembra viva. Come ci riesci?
Non lo so, viene da sé.
E per questo molto ti sarà perdonato.
Sono sicuro che siete venuto perché dovete cominciare un grande lavoro.
Devo trovare del marmo per la tomba di Papa Giulio.
Il compianto Papa fu un illustre esponente della famiglia della Rovere. Non tutti della Rovere sono persone per bene.
Michel-Ange, le film de Konchalovsky que vous défendez, Michel Simon, alors que d'autres critiques étaient plutôt réservées, parlant même d'un cinéma académique.
Oui, alors non, il faut pas non plus exagérer. Je sais que en général, ce qu'on dit des films se réduit au cahier du cinéma, à Libération et au Monde. Mais la presse a été quasiment unanime. Ça allait de Beaux-Arts Magazine à La Croix, des Échos à l'Obs, du Figaro au Point. Donc c'est vrai qu'on se focalise toujours sur les mêmes tribunes. Le film de Konchalovsky a eu un accueil, disons, à 80% extrêmement favorable. Alors les réserves de l'Académie, c'est complètement stupide parce que c'est toujours le même argument. Dès qu'un film est magnifiquement photographié dans des décors naturels, on dit que c'est académique. Je vois pas du tout ce qu'il y a d'académique dans ce film. Konchalovsky fait un biopic. Alors il y a effectivement des préjugés contre le biopic. Pourtant, il y en a des chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma, hein, de Alexandre Nevsky jusqu'à Amadeus, de Van Gogh, de Pialat. Enfin, bon, le biopic a produit énormément de très grands films. Et ce film de Konchalovsky est absolument passionnant. D'abord, il est tourné par un Russe, évidemment, mais qui parle toutes les langues. Et donc, il a tourné en Italie, dans les décors de la vie de Michel-Ange, avec des acteurs non professionnels. Par exemple, ce sont des ouvriers de Carrare aujourd'hui, comme les ouvriers de Michel-Ange à l'époque. Des non-professionnels qui jouent, en particulier, il y a une scène extraordinaire de transport d'un énorme bloc de marbre qui fait penser d'ailleurs à la construction de la cloche dans Andrei Rublev de Tarkovsky, qui avait été écrit avec Konchalovsky. C'est une séquence prodigieuse, mais c'est fait par des non-professionnels. Donc ça, c'est passionnant. Ce qui est également passionnant, c'est le fait que Konchalovsky nous parle, à travers cette histoire de Michel-Ange, des rapports qu'il a bien connus à l'époque soviétique entre le pouvoir et l'artiste. C'est-à-dire que Michel-Ange est toujours obligé de faire des commandes. Le pape lui commande un sujet, il est obligé de le traiter, et ensuite il doit se mesurer avec l'Inquisition, avec la censure, avec des collèges de cardinaux, etc., qui lui demandent de cacher tel saint que l'on ne saurait voir. Donc c'est passionnant, parce que c'est une méditation sur l'artiste et comment les contraintes n'empêchent pas le génie.
Avec Alberto Testol dans le rôle de Michel-Ange, alors le film Michel-Ange de Konchalovsky, vous avez dit que c'était un biopic, mais c'est pas tout à fait un biopic, parce qu'il raconte pas toute la vie du grand-père. Mais c'est plutôt...
d'années.
Oui, c'est vraiment, c'est le portrait de l'artiste quand il est au sommet de sa carrière, soit au début du XVIe siècle.
Absolument. Mais souvent, d'ailleurs, ce qu'on appelle biopic, c'est souvent une période dans la vie de quelqu'un. Mais ça est rassemblé sous le titre de biopic. C'est vrai que ce Michel-Ange se concentre, c'est pour ça qu'il est si intéressant, même s'il dure 2h15, il réussit à approfondir une période et un personnage. Et je pense que Konchalovsky a un sens visuel. C'est toujours un cinéaste toute sa vie. D'ailleurs, la Cinémathèque vient de lui rendre hommage avec la projection des 23 films qu'il a réalisés. C'est également un très grand paysagiste. Il n'y a pas beaucoup de cinéastes aujourd'hui. Il y a Jane Campion, il y a Bruno Dumont, il y a Terrence Malick. Il y a très peu de cinéastes qui s'intéressent au paysage. On vient de parler du Chinois. Oui, lui s'y intéresse aussi, mais ce n'est pas encore une personnalité confirmée. Mais parmi les grands cinéastes d'aujourd'hui, Konchalovsky est un des plus grands chantres de la nature. Et dans ce film, il y a effectivement aussi une nature qui est magnifiée. Et donc, c'est un film assez riche et complexe.
Michel-Ange, donc, de Konchalovsky. On passe au troisième film dans la sélection de Michel Simon.
Je travaille sur un roman. C'est l'histoire de ma vie et de mes sœurs.
Faites court et piquant. Et si le personnage principal est une fille, arrangez-vous pour qu'elle soit mariée à la fin.
Ah, Joe!
Je veux être artiste à Rome et devenir le meilleur peintre du monde.
Ce n'est pas ce que tu veux toi aussi, Joe, devenir un célèbre écrivain?
Si, mais ça fait tellement vulgaire quand elle le dit. Mes filles ont tendance à faire des sottises.
Oh, moi aussi. Voici Meg, Amy, Beth et Joe.
Je compte bien réussir par moi-même.
Personne ne réussit jamais seul, surtout pas une femme. Tu dois faire un bon mariage.
Mais vous n'êtes pas mariée, tante Marge.
Oui, mais moi, je suis riche.
Voilà, et ça c'est la version française d'un film américain. Enfin, un film américain dans le top 3 des meilleurs films de l'année selon Michel Simon, Les filles du docteur March de Greta Gerwig. Vous a beaucoup plu, Michel Simon?
Oui, c'est ce qui va surprendre peut-être plus le plus aux auditeurs. parce que la comédie, en général, est tout de même assez sous-estimée. On la met rarement dans les meilleurs films. Elle n'a pas droit de visionnage dans les grands festivals très souvent. Et celle-ci est tout à fait remarquable. D'abord, pour moi, c'est une des grandes cinéastes d'aujourd'hui. Parmi les femmes réalisatrices, elle est au sommet. C'est Greta Gerwig. C'est son deuxième film après Lady Bird, qui racontait l'adolescence d'une jeune provinciale de Sacramento, éprise de liberté. Et c'est également un film très féministe et très féminin que Ces filles du Dr March. C'est pas les quatre filles, hein. Le titre français, c'est Les filles du Dr March. Elles sont toujours quatre, d'ailleurs. Et c'est un film qui a, à mon avis, énormément de qualité, en particulier la vivacité. C'est un film d'une vivacité extrême, d'un rythme merveilleux, sans être précipité, mais vraiment rythmé, et beaucoup de grâce. C'est très important. Et c'est un film sur la naissance historique de la jeune fille moderne. C'est la découverte de la féminité par ses personnages et des premiers essais vers la liberté. Donc c'est un film qui m'a beaucoup touché par la qualité de l'interprétation, par ce dynamisme étonnant de la mise en scène, parce que c'est très difficile d'avoir autant de personnages et de rendre clair le récit. Et donc c'est une vraie réussite. Et Greta Gerwig, qui est une actrice, qui a joué dans pas mal de comédies américaines, est en même temps une très jeune femme. Enfin, elle doit avoir dans la trentaine, 34 ans. Et ce film est tout à fait éblouissant. Il a d'ailleurs eu un grand succès populaire, même si la critique a parfois traîné les pieds.
Mais il y a un casting royal aussi dans ce film.
Il y a un casting royal. Et vous savez, il faut Meryl se rappeler...
Meryl Streep, Laura Dern...
Ouais. Bien sûr. Mais il faut se rappeler comment étaient accueillies les comédies de Billy Wilder. Je ne parle pas de certains Lame Show qui étaient un grand succès, mais beaucoup de comédies de Billy Wilder qu'on réhabilite aujourd'hui comme un immense cinéaste ont été accueillies avec des pincements de nez devant leur vulgarité, etc. Donc, c'est pas la vulgarité, en tout cas, qu'on reprochera à Greta Gerwig, mais je vous le dis, cette invention visuelle, car encore une fois, il faut parler de cinéma et pas seulement des thèmes. Alors, les thèmes sont très riches et très, très d'actualité, puisqu'on parle beaucoup de l'émancipation des femmes, et je pense que ce film en costume n'a rien du film en costume, il n'a rien d'empesé, il est filmé comme s'il était aujourd'hui, et pourtant c'est un film très actuel.
Les filles du Dr March.
Je n'irai plus au cinéma, elle est toute seule, ça m'ennuie. Mais quand j'y vais avec un gars, je ne vois rien à cause de lui. Quand il m'embrasse, quand il m'enlace, je ne vois plus rien sur l'écran. Au moment le plus palpitant, souvent je jure et je maudis sa capacité thoracique. Mais je l'adore et je me plie à son goût du baiser classique. Je n'irai plus au cinéma, car elle est toute seule, ça m'ennuie. Mais quand j'y vais avec un gars, je ne vois rien à cause de lui. Quand il m'embrasse, quand il m'enlace, je suis complètement aveuglée, je suis complètement étouffée. Quand il reprend de l'oxygène, que je pourrais enfin regarder les jambes devant, c'est bien ma veine, m'en mettre plein la vue de leur baiser. Quand il m'embrasse, quand il m'enlace, je pense souvent en moi-même pour me donner la preuve qu'il m'aime. Il ferait mieux, oui beaucoup mieux, de regarder le jeune premier qui s'y prend mieux, oui vraiment mieux, et qu'a beaucoup plus de métier. Je n'irai plus au cinéma, car elle est toute seule, ça m'ennuie. Mais quand j'y vais avec un gars, je ne vois rien à cause de lui. Quand je retournerai au cinéma, c'est que l'écran sera au plafond, mais j'y reviendrai avec toi. Plus tu m'embrasses et plus c'est bon.
C'était en 1961, Je n'irai plus au cinéma, par Odette Laure. Ça doit vous rappeler quelques bons souvenirs, Michel Simon.
Absolument.
Alors, pour reprendre le top 3 des films que vous avez aimés cette année, c'était donc le film chinois, Séjour dans les monts Fushun, le Michel-Ange par Kanchalowski, Les filles du docteur March, et on va parler un peu du cinéma français, la comédie sociale française, qui est d'ailleurs à l'honneur dans le dernier numéro de la revue que vous dirigez, Positif.
Oui, alors c'est vrai que nous avons réfléchi à cette nouveauté dans le cinéma français, c'est cette comédie sociale. C'est-à-dire que le cinéma français, c'est pas seulement dans la comédie Les Tuches ou Les Ch'tis qui font 3 ou 4 millions de spectateurs et qui, pour ma part, me paraissent assez navrants du point de vue cinématographique, mais genre que l'on associait davantage à l'Italie. On sait, dans les années 60-70, le grand cinéma italien, il y avait beaucoup de comédies sociales qui commentaient la justice, la police, le capitalisme, l'église, etc. Et on a cette année, en particulier, des films passionnants dont la carrière a été parfois interrompue par, évidemment, le confinement. Je pense à un film qui devait sortir et qui sortira peut-être pas, finalement, Les deux Alfred de Bruno Podalides, qui devait sortir ce mois-ci, dans la deuxième partie de décembre, Effacer l'historique, qui a connu une très belle carrière de Benoît Delépine et Gustave Kervern, entre deux confinements, Adieu les cons, qui a été interrompu après une semaine triomphale, qui a fait 600 000 entrées en une semaine, de Albert Dupontel, et puis le tandem Toledano-Nakash. Alors ce sont des films qui ne sont pas tout à fait d'actualité, mais je pense par exemple à Hors Normes, et avant à Intouchables, ou même Le Sens de la Fête. Voilà des films qui commentent l'ultralibéralisme, qui commente l'invasion de techniques de communication qui échappent aux gens les plus âgés, qui sont complètement perturbés par ces nouveautés technologiques. Donc il y a une critique, au fond, des trois derniers mandats de Sarkozy, de Hollande et de Macron, d'un libéralisme extrêmement débridé. Et je pense que ces films sont quelque chose de nouveau, et nous avons pensé que c'était l'occasion d'en faire un dossier dirigé par Fabien Beaumane et Grégory Valence, avec des entretiens avec tous ces metteurs en scène, des études. Ce qui est intéressant aussi, c'est la délocalisation. Avant, on reprochait au cinéma français, dans les comédies en particulier, d'être presque exclusivement parisienne, alors que la plupart de ces comédies se passent souvent en province, dans des localités les plus variées, ça va de l'Ardèche à l'Île-de-France, mais qui ne sont pas du tout la capitale, comme par exemple beaucoup de films de la Nouvelle Vague et des comédies se situaient essentiellement à Paris. Et ça, c'est également nouveau.
La comédie sociale française d'aujourd'hui, un dossier à retrouver dans le dernier numéro de Positif en kiosque. Merci beaucoup Michel Simon et je vous souhaite une excellente année 2021 en espérant qu'elle ne ressemble en rien à ce que nous venons de vivre.
Et longue vie à votre réveil culturel, Toufik Hakem.
Merci beaucoup Michel Simon.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr ou en passant par l'application Radio France.
Baptiste Lénard à la prise de son, Corinne Amar à la coordination, Vincent Bouchard à la réalisation. Merci d'être de plus en plus nombreux à être fidèles au réveil culturel. On se retrouve demain à la même heure.
Pour la fin d'année, offrez-vous France Culture. Des philosophes amoureux, des animaux, les dernières nouvelles de l'univers.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Telle Céline Dion, pommeau de douche en main, donnait de la voix dans sa salle de bain.
Sur France Culture, le documentaire se déploie en grand format. Perrine Kervran.
Reprendre les tubes façon Clo-Clo des petits chanteurs d'Asnières, rêver d'envoler lyrique ou s'imaginer dans les steppes apprendre le chant diphonique. Mais en fait, mais si on chantait, c'est la bonne résolution de LSD cette année.
LSD, la série documentaire, du lundi au jeudi à 17h et sur franceculture.fr.
Et si la crise sanitaire était le point de départ d'une grande remise en question dans le monde du sport ?
Culture Monde,
Mélanie Chalandon.
Nous poserons la question de l'avenir des Jeux Olympiques et des Coupes du Monde, de la capacité du football européen à se réformer face aux dérives de ses finances. Nous reviendrons sur l'engagement des athlètes contre le racisme et les discriminations. Enfin, sur la nouvelle place des femmes dans la compétition mondiale.
Culture Monde, de lundi à vendredi à 11h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
6h30 sur France Culture, le journal par Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Le gouvernement français souhaite étendre le couvre-feu par endroit. Il commencerait à 18h au lieu de 20h. Une reprise incontrôlée de l'épidémie de Covid-19 en janvier est probable à cause du surcroît de contamination provoquée par les fêtes de fin d'année, avertit le conseil scientifique dans un avis qu'on vous détaille. Le président élu Joe Biden déplore le retard accumulé dans la campagne de vaccination aux États-Unis. Nous irons à New York. Les sénateurs argentins débattent en ce moment de la légalisation de l'avortement. La population comme la classe politique est très divisée. Le gouvernement propose d'étendre le couvre-feu. Il commencerait à 18 au lieu de 20 heures à partir de samedi dans une vingtaine de départements situés dans les régions les plus touchées par l'épidémie de Covid-19. Le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Auvergne-Rhône-Alpes et le département des Alpes-Maritimes inquiètent particulièrement les autorités sanitaires. Pour renforcer ces contraintes, le gouvernement s'appuie notamment sur la note d'alerte du Conseil scientifique remise le 22 décembre et qui vient d'être rendu public. Le Conseil craint une reprise incontrôlée de l'épidémie, Daniel Messager.
L'évolution des principaux indicateurs est préoccupante, écrit le Conseil scientifique, avec de fortes augmentations de taux d'incidence en PACA, plus 35%, Grand Est, Auvergne, Rhône-Alpes. Il y a un risque non nul d'une reprise incontrôlée de l'épidémie en janvier. Il conseille donc trois options. Un renforcement strict dès la deuxième semaine des congés. Nous y sommes. Ce n'est donc pas cette option de la note remise le 22 décembre qui a été retenue, mais la deuxième, une réponse adaptée au surcroît des contaminations de fin d'année, en réagissant début janvier. Ainsi, Olivier Véran a bien annoncé hier soir qu'un couvre-feu anticipé à 18h pourrait entrer en vigueur dès le 2 janvier dans les départements des régions les plus touchées. La troisième option envisageait d'attendre plus tard en fonction des hospitalisations à la fin du mois. La note du Conseil porte également sur le nouveau variant du virus. Il y a certes une augmentation du risque de transmission, mais il n'est à ce jour pas plus dangereux, sans risque de réinfection pour les personnes ayant déjà été malades, et le vaccin demeure efficace. Les tests peuvent le détecter, la recommandation étant de contrôler les voyageurs venant du Royaume-Uni.
L'une des solutions pour limiter la propagation du Covid, c'est la vaccination, mais certains regrettent le début très timide de la campagne de vaccination en France. Elle a commencé dimanche, c'est le temps de l'explication et de la pédagogie, le temps aussi de recueillir le consentement dans les EHPAD, a expliqué hier soir sur France 2 le ministre de la Santé, Olivier Véran. Le scepticisme est très fort chez les Français face aux vaccins et de fausses informations circulent sur les réseaux sociaux. Des collectifs de citoyens luttent contre les anti-vax. C'est le cas des Vaxeuses, un groupe de 15 personnes sur Facebook qui passe du temps à déconstruire ce qu'on appelle les fake news. L'un de ses fondateurs se fait appeler Pierre, un nom d'emprunt qu'il préfère utiliser depuis qu'il a reçu des menaces de mort.
Beaucoup de gens sont sceptiques vis-à-vis de ce vaccin Covid parce que il circule beaucoup d'informations sur une éventuelle modification possible de nos gènes via ce vaccin, qui est un vaccin à ARN. Alors ce sont des mots compliqués qu'on n'entend pas souvent, qui peuvent faire peur. Et donc ça, c'est une information sur laquelle on va travailler. On va publier un article ou on va relayer des articles qui expliquent comment fonctionnent ces vaccins à ARN, qui expliquent pourquoi un vaccin ARN ne peut pas modifier notre génome et comment fonctionne cette vaccination en particulier. Et pourquoi est-ce qu'on va juger cette information urgente? Ben simplement parce que on vit depuis un an dans une situation qui n'est agréable pour personne, que cette vaccination, c'est la meilleure solution qu'on a pour en sortir rapidement. Et donc, propager des infos fausses concernant ce vaccin, oui, pour notre groupe, ça représente une urgence à traiter rapidement.
Témoignage recueilli par Maïwenn Bordron. Pendant ce temps, aux États-Unis, pays qui détient toujours le record du nombre de victimes, plus de 350 000 morts, le prochain président américain s'en prend à la politique sanitaire de son prédécesseur. À la veille du réveillon, le démocrate Joe Biden faisait le point hier sur la pandémie, Sébastien Paour.
Joe Biden remercie les chercheurs et les soignants, mais il prévient d'entrer. La situation va encore empirer avant de s'arranger, parce que la Maison-Blanche ne fait pas tout ce qu'il faut, selon lui, en matière de vaccins. Le plan de l'administration Trump pour la distribution des vaccins prend du retard, beaucoup de retard. Les efforts pour les distribuer et les administrer ne progressent pas comme ils devraient. Il y a quelques semaines, l'administration Trump a laissé entendre que 20 millions d'Américains pourraient être vaccinés d'ici la fin décembre. On est à quelques jours de la fin décembre et on n'en a vacciné que quelques millions. Un peu plus de 2 millions pour l'instant aux États-Unis. À ce rythme, dit Biden, il faudra des années et pas des mois pour vacciner tous les Américains. Mais il assure que c'est jouable, promet 100 millions d'injections sur les 100 premiers jours de sa présidence si le Congrès débloque des fonds, et regrette que l'actuel président ne fasse pas la promotion des vaccins. J'espère que le président va appeler clairement et sans ambiguïté tous les Américains à se faire vacciner quand ce sera leur tour. Joe Biden rappelle qu'il l'a fait, lui, devant les caméras, comme sa future vice-présidente, Kamala Harris, hier.
La correspondance à New York de Sébastien Paour. Il n'y a pas que la crise sanitaire qui fait la une de l'actualité en Argentine. Le débat sur la légalisation de l'avortement aussi. Les sénateurs sont en train d'en discuter et d'ici quelques heures, ils voteront pour déterminer si l'interruption volontaire de grossesse devient légale ou pas dans ce pays encore très catholique. En attendant la décision des Argentins, certains pour, certains contre, manifestent au pied du Congrès. Caroline Vic.
La place du Congrès est à l'image de la société, divisée en deux. Comme pour chaque débat, les bleus ciels se sont installés d'un côté et les verts de l'autre, tous organisant une veillée jusqu'au vote et entre les deux, barrières et police. Dans le camp des anti-IVG, les bleus, on peut voir un gigantesque embryon taché de peinture rouge et sur une scène se succèdent chanteurs évangélistes et groupes de rock catholiques. Chez les verts, les pro-IVG, on danse devant des haut-parleurs, on se maquille, d'autres boivent du maté entre copines. Toutes et tous ont les yeux rivés sur les écrans géants installés un peu partout autour du Congrès et suivent le débat. Chaque sénateur expose ses idées. Les pressions des anti-avortements sont dénoncées par plusieurs législateurs. D'autres menacent de faire déclarer inconstitutionnel le texte s'il est approuvé. Il y a 2 ans, le Sénat avait rejeté le texte à 7 voix près. Cette fois, ce sera certainement encore plus serré, d'où la nervosité ambiante au Sénat et de part et d'autre de la place du Congrès.
Sur les 12 militants pro-démocratie hongkongais qui avaient été arrêtés cet été, 10 ont été condamnés aujourd'hui à des peines allant de 7 mois à 3 ans de prison. Ils avaient tenté de fuir Hong Kong en bateau vers Taïwan et étaient depuis détenus en Chine. L'Union européenne, comme les États-Unis, exigeait leur libération immédiate. L'Ocean Viking reprendra ses opérations de sauvetage dans une dizaine de jours. Le navire de l'ONG SOS Méditerranée est en escale à Marseille. Il a été libéré il y a 10 jours du port italien où il était retenu officiellement pour des problèmes de sécurité. Ce navire sauve des migrants qui tentent la traversée sur des embarcations de fortune avec l'espoir de rejoindre l'Europe. Sophie Beau, la directrice de l'ONG, s'en réjouit, même si elle reste très inquiète sur le fond du problème.
Tous les navires humanitaires ont été bloqués cette année avec des prétextes administratifs qui tournent tous autour de la sécurité. Donc c'est très inquiétant puisque nous allons repartir, nous serons peut-être le seul bateau où il y en a peut-être un deuxième qui sera présent en mer. Mais c'est très insuffisant pour couvrir l'ensemble des besoins et ça ne permet pas de secourir toutes les vies qui sont en danger en mer. Donc nous sommes évidemment très inquiets. D'autant plus que sur le plan politique, l'année 2020 n'a pas du tout vu d'avancée sur ce que nous demandons depuis des années, c'est-à-dire qu'il y a d'une part une flotte de sauvetage européenne, elle n'a toujours pas vu le jour cette flotte, et puis au moins que les États européens s'accordent sur un mécanisme automatique de répartition des naufragés, des personnes rescapées en mer Méditerranée quand elles sont secourues par un navire humanitaire ou un navire commercial, qu'elles puissent systématiquement être débarquées dans un lieu sûr. Or cela, ça n'existe toujours pas et ce sont les États comme l'Italie qui gèrent pratiquement seuls en première ligne ces débarquements. Ça pose des problèmes politiques et on voit justement que les autorités italiennes essayent de se prémunir de ces débarquements en inventant de nouveaux prétextes administratifs très régulièrement pour bloquer nos navires.
Sophie Beau avec Florence Turm. 739 victimes ont été décomptées à ce jour par SOS Méditerranée pour la seule année 2020, sans compter toutes les embarcations qui ont disparu sans laisser de traces. L'année 2020 est la plus chaude jamais enregistrée en France et le rafraîchissement des températures en fin d'année n'aura rien changé. La température moyenne sur l'ensemble du pays cette année était de 14 degrés, a annoncé Météo France. Nous y reviendrons plus en détail dans le journal de 7h sur France Culture. Météo France qui maintient aujourd'hui 4 départements en vigilance orange pour des risques de crues. Les Landes, le Gers, le Tarn-et-Garonne et le Lot-et-Garonne. Comptez au maximum cet après-midi 4 degrés à Metz, 5 à Amiens, 7 à Rennes et jusqu'à 10 degrés à Perpignan. 6h40, c'est l'heure du Journal des idées. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Margot Delpierre.
Le recteur de la Grande Mosquée de Paris a déclaré lundi qu'il se retirait du projet de Conseil national des imams voulu par l'Élysée et confié au Conseil français du culte musulman.
Oui, Marco, selon son communiqué, Shems Eddin Hafiz a décidé de ne plus participer aux réunions qui visent à mettre en œuvre le projet du Conseil national des imams et de geler tous les contacts avec l'ensemble de la composante islamiste du CFCM. Ce projet d'un Conseil national des imams chargé de certifier leur formation en France a été initié par l'Élysée dans le cadre de son projet de loi contre l'islam radical et les séparatistes. Sa fonction serait notamment de délivrer un agrément aux imams au vu de leur connaissance et de leur engagement à respecter un code de déontologie. Les 9 fédérations de mosquées qui composent le CFCM, le Conseil français du culte musulman, devaient se mettre d'accord sur une charte des valeurs républicaines, mais le recteur de la Grande Mosquée de Paris dénonce la composante islamiste au sein du CFCM, notamment celle liée à des régimes étrangers hostiles à la France, je le cite, qui a insidieusement bloqué les négociations, remettant en cause presque systématiquement certains passages importants de la charte. Sur le site de La Croix, Laurent de Boissieu rappelle que la volonté de l'État de séparer l'islam de l'islamisme à travers la signature d'une charte n'est pas nouvelle et se heurte toujours à la même difficulté. Soit défendre un texte ferme sur les principes, même s'il est rejeté par de grandes fédérations musulmanes. En décembre 1994, la première charte du culte musulman avait été adoptée unilatéralement par la Grande Mosquée de Paris liée à l'Algérie. Soit chercher un large consensus, quitte à s'accommoder d'une déclaration sans portée concrète. Aujourd'hui, dans la page débat du quotidien, La Croix donc, Azedine Gassi, imam à Villeurbanne et porte-parole du Conseil théologique des imams du Rhône, parle d'un projet mort-né tel qu'il est présenté sous la dictée de l'Élysée et de la place Beauvau, et il plaide pour une forme de décentralisation dont témoigne son organisation, elle qui s'est déjà dotée d'une commission déontologique et éthique pour rappeler à l'ordre les imams délivrant des messages en contradiction avec les principes républicains. Tariq Abounour, imam dans le Val d'Oise, théologien et président de l'Institut d'enseignement supérieur islamique de Paris, est quant à lui favorable à l'initiative. Le Conseil national des imams est une nécessité imminente au-delà des clivages politiques ou religieux, dit-il, comme rempart contre les ingérences étrangères et l'assurance d'une indépendance. La formation continue et le contrôle des connaissances sont au cœur du dispositif qui vise à dissuader les imams idéologisés ou autoproclamés. Depuis les années 1980, ajoute-t-il, l'Organisation de l'Islam de France patauge. Ce CNI, c'est notre bouée de sauvetage pour mettre fin à l'ingérence étrangère et aux idéologies de haine et d'exclusion. Parmi les sujets qui coincent chez les islamistes dans le projet de charte des principes du Conseil national des imams, le passage enjoignant de ne pas qualifier l'apostasie de crime, ni stigmatiser celles ou ceux qui renoncent à une religion, ou encore la définition de l'islam politique, qui désigne les courants considérés comme incompatibles avec la République, je cite, wahhabisme, salafisme, doctrine des frères musulmans et plus généralement toute mouvance locale, transnationale ou internationale qui vise à utiliser l'islam afin d'asseoir une doctrine politique, notamment celle dont les textes rejettent la démocratie, la laïcité, l'égalité entre les femmes et les hommes, ou qui fait la promotion de l'homophobie l'homophobie, de la misogynie, de l'antisémitisme, de la haine religieuse. » Fin de citation. Sans surprise, ce passage est dénoncé par les musulmans de France, l'ex-UOIF, Foi et Pratique, branche française du mouvement Tablighe, et la confédération islamique Mille Görüş, liée à la Turquie. Du coup, comme le révèle Laure Dossi dans Charlie Hebdo, qui s'est procuré l'une des dernières moutures du texte, la définition de cet islam politique est entièrement rayée, et ce n'est donc pas cette fois que le vieux serpent de mer de la certification des imams va aboutir, je la cite. Pas sûr qu'une charte initiée au départ par l'exécutif, celui-ci s'implique beaucoup au risque de quelques renoncements au principe de séparation entre les cultes et l'État, aurait été bien acceptée par les mosquées et d'autant plus celles qui ne doivent rien au CFCM. Je signale juste que Hervé Gardet donc revient sur cette question, la question du jour, et notamment sur la difficile unité de l'islam de France avec Mohamed Sifaoui. Mais pour l'heure, à 6h45 sur France Culture, place aux enjeux internationaux avec vous, Antoine Dulster, bonjour.
Bonjour Jacques Migné, bonjour à toutes et à tous.
Au programme aujourd'hui, l'Allemagne et le destin d'Angela Merkel.
Oui, c'est le troisième temps de cette série d'émissions consacrée toute cette semaine au grand dossier diplomatique à surveiller en cette année 2021 qui va commencer. Direction l'Allemagne donc, avec cette fin annoncée de l'ère Merkel. Les élections fédérales sont prévues le 26 septembre. La chancelière quittera son poste après 16 années passées au pouvoir. Et ce départ aura forcément une incidence sur le leadership européen. Rien n'est possible en Europe sans l'Allemagne. Ces derniers mois, l'action de Berlin a été déterminante pour l'adoption du plan de relance en réponse à la crise sanitaire. L'Allemagne présidait aussi le Conseil européen jusqu'à cette fin d'année 2020. L'occasion nous est donc donnée à double titre pour nous pencher sur les répercussions européennes de cette transition politique annoncée à Berlin. Bonjour Hélène Miard de la Croix.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire et de civilisation de l'Allemagne contemporaine à la Sorbonne et vous avez signé avec Andreas Wirsching, Ennemi héréditaire, un dialogue franco-allemand. C'est un ouvrage qui est paru aux éditions Fayard cette année. Hélène Miard de la Croix, commençons si vous le voulez bien avec peut-être quelques mots de bilan européen, un bilan de l'action d'Angela Merkel en Europe. Elle quittera la chancellerie en septembre. On pense évidemment pour ce bilan européen de Merkel au plan de relance de 750 milliards d'euros adopté cette année. Ce bilan, ce plan de relance qui a été adopté dans la douleur, c'est peut-être le grand point à mettre à l'actif de la chancelière.
Alors c'est certainement ce qui va rester en mémoire, d'abord parce que c'est la fin de 16 années de direction de la CDU et de l'Allemagne au sein de l'Europe. Pour autant, pendant ces 16 ans, il y a eu d'autres phases, rappelez-vous, la crise financière de 2008, à la fois une admiration pour la façon dont Angela Merkel a géré la crise, à l'époque avec Nicolas Sarkozy, mais aussi la façon dont elle a été très contestée dans la position de l'Allemagne face au pays qui avait un problème de dette souveraine. Et puis surtout va rester aussi dans l'histoire l'attitude qu'elle a eue face aux réfugiés au moment de la crise des réfugiés.
C'était en 2015, effectivement.
À la fin de l'été 2015, où elle a manifesté quelque chose qu'on lui connaissait assez peu, c'est-à-dire un enthousiasme immédiat pour une action humanitaire qui a posé par la suite des problèmes à ses voisins et en particulier à ses voisins de l'Est de l'Allemagne et donc des arrivés récemment en Europe qui ont décidé de fermer leurs frontières et ce qui a contribué à ce moment-là à mettre en évidence des diversités et des vraies différences et des différends entre les membres de l'Europe. Donc globalement, elle a un bilan qui est, c'était une femme pragmatique et en même temps pusillanime. On lui a souvent reproché, et on peut encore aujourd'hui le faire, un relatif manque d'audace, un petit peu timoré, avec sa façon de faire, de vouloir toujours chercher le consensus, ne froisser personne, emmener tout le monde, quitte à faire des concessions.
Alors, donc, je le disais, hein, Hélène Miard de la Croix, ce plan de relance adopté cette année, un plan qui était contesté au départ par les États dits frugaux et ensuite, pour d'autres raisons, par la Hongrie et la Pologne, notamment autour de la question de l'état de droit, qui était donc la condition du versement des aides. Un accord a été trouvé dernièrement. Est-ce que cet accord est à mettre vraiment au crédit du leadership allemand? Est-ce que la patte d'Angela Merkel a imprimé vraiment cet accord et la façon dont cette crise a été résolue?
Alors on peut dire que la patte d'Angela Merkel s'y retrouve dans la mesure où il a fallu en effet beaucoup négocier et trouver des arrangements, y compris des choses qui ont dû se dire derrière des portes fermées et que nous ne savons pas, pour obtenir à la fois l'accord de ceux qui s'appellent les frugaux et qui ont été plutôt qualifiés par les autres de radins, ou de ceux qui étaient prêts à profiter des avantages fiscaux de la non-unification de l'Europe sur ce point et qui n'étaient pas prêts à ce geste de solidarité dans la crise sanitaire et économique, mais aussi donc vis-à-vis de ceux qui, dans les pays de l'Est de l'Europe, ne sont pas enclins à respecter l'état de droit. Il y a la patte d'Angela Merkel et il y a en effet aussi, je dirais, la patte de l'Allemagne. On a tous été extrêmement surpris de cette volte-face, c'est comme ça qu'on l'a qualifiée, la façon dont l'Allemagne a accepté de tourner le dos à son principe de ne pas faire de dette et surtout de ne pas faire de dette commune. Mais je crois qu'on peut le comprendre très bien lorsque l'on a en mémoire et devant les yeux les intérêts qu'a l'Allemagne au maintien d'une Europe qui fonctionne, non seulement des intérêts commerciaux, puisqu'il y a plus de 60 de son commerce qui est fait avec le marché unique, ce qui veut dire que les Allemands ont besoin de clients prospères, mais aussi des effets retard que peuvent avoir en Allemagne même et dans les démocraties en Europe, à la fois le départ des Britanniques et les effets politiques et notamment les probables succès de partis populistes s'il y a une dégringolade des économies. Donc ce soutien aux économies européennes, c'est de la part de l'Allemagne une intervention contre une instabilité également politique qui pourrait y compris toucher l'Allemagne, puisqu'il y a eu au début de l'année 2020 en Allemagne même, dans un land de l'Est, en Thuringe, un succès particulier du parti d'extrême droite de l'AFD et surtout des signaux envoyés par le parti d'Angela Merkel, la CDU, qu'elle était prête dans cette région de l'Allemagne finalement s'arranger avec ce parti d'extrême droite. Et dans cette situation donc d'extrême gravité, on a là la réaction typique d'Angela Merkel. Il faut agir sans flamme, sans passion, mais avec conviction et pragmatisme.
Alors, Hélène Millard de la Croix, les événements dont vous parlez en Thuringe sont les événements qui ont précipité la chute de AKK, Annegret Kramp-Karrenbauer, qui était la dauphine désignée d'Angela Merkel. Donc, ce ne sera pas elle qui s'installera à la chancellerie en septembre prochain. On ne sait pas encore qui sera le successeur d'Angela Merkel, mais on a peut-être une idée du profil qu'il aura. Le journaliste du Monde, Thomas Wieder, écrit dans Le Monde, justement, après avoir été incarné pendant 20 ans par une protestante sans enfant et ayant grandi en Allemagne de l'Est, la CDU s'apprête à élire à sa tête, donc ça ce sera en janvier, un père de famille catholique et originaire de Rhénanie du Nord-Westphalie, ce qui est le cas des trois candidats en lice, Armin Laschet, Friedrich Merz et Norbert Röttgen, donc trois prétendants en lice pour la succession d'Angela Merkel, auxquels on peut rajouter un quatrième profil qui est celui de Markus Söder de la CSU. Alors sans faire de la prospective, parce que c'est toujours un exercice très risqué, est-ce que ces profils de dirigeants potentiels pourraient remettre en question, par exemple, parce que l'un des fondamentaux de la politique étrangère allemande, qui est par exemple la stabilité et la confiance accordée en Allemagne au couple franco-allemand, justement. Est-ce qu'il y a, dans ces candidats CDU-CSU, un débat sur cette question ?
Il ne faut en effet pas faire de prospective, mais je crois que là, on ne devrait pas se faire de soucis. Parce que donc tous ces prétendants que vous avez évoqués, les trois à la succession de la CDU, à laquelle il faut rajouter l'actuel ministre de la Santé, Spahn, qui est aussi très européen. Et donc le bavarois de la CSU, Markus Söder, sont tous les quatre des Européens convaincus. À la limite, ils sont plus occidentaux, ils sont plus de l'Allemagne de l'Ouest que ne l'est culturellement Angela Merkel, qui, on le sait, étant venue de l'Est de l'Allemagne, n'avait pas grandi à la fois dans l'évidence et dans le mythe de la construction européenne. Ils sont tous sur ce point assez clairs avec simplement un tempérament différent. Donc là où on pourrait voir des différences, peut-être c'est que la fameuse méthode Merkel, de ne pas faire de vagues, de ne jamais avoir un mot plus haut que l'autre et de toujours chercher le consensus, pourrait se voir relayée par un profil peut-être un peu plus marqué, en particulier si c'est le bavarois Söder ou si c'est Friedrich Merz, qui est à la fois plus conservateur en interne sur les questions culturelles et de société à la CDU, donc qui ramènerait la CDU plus vers le camp conservateur et pourrait faire face à l'AfD, mais qui est sur ce point absolument convaincu, un, de l'atlantisme, deux, de la construction européenne, et trois, de l'appui avec la France, de l'appui sur la France. Et je crois que l'appui sur la France, il est en Allemagne plus incontesté et incontestable que jamais depuis que les Britanniques ont quitté l'Union. Les Allemands n'aiment pas avoir un seul allié, donc ils travailleront aussi toujours avec les plus petits pays, et puis avec les Italiens et les Espagnols, etc. Mais le partenaire stratégique qu'est le Royaume-Uni, ayant quitté l'Union, eh bien le deuxième grand pays avec
l'évidence de l'alliance avec la France se maintient. En quelques mots, Hélène Millard de Lacroix, il y a un thème assez important qui a fait débat dernièrement en Allemagne, c'est la question de l'alliance atlantique. Donc AKK, que je mentionnais tout à l'heure, Annegret Kramp-Karrenbauer, ministre de la Défense, disait dans Politico, il faut en finir avec l'illusion d'une autonomie stratégique européenne. Les Européens ne pourront pas remplacer le rôle capital qu'ont les États-Unis en tant que garant de leur sécurité. Ce sont des propos qui ont été commentés et critiqués par Emmanuel Macron en France. Ce débat sur une défense européenne, sur l'autonomie stratégique de l'Europe, c'est aussi quelque chose qui fait débat en Allemagne ?
Alors ça fait débat et ça ne fait pas débat. Ça fait débat quand la France en parle et quand Emmanuel Macron fait un peu le poil à gratter avec quelquefois des formules qui ont pu gêner comme la mort cérébrale de l'OTAN. Et ça ne fait pas débat dans la mesure où on n'a pas envie de parler de ça en Allemagne. Ça fait partie des sujets un peu tabous et qui vont l'être d'autant plus que la victoire de Joe Biden a éliminé la crainte qui se profilait à l'horizon d'un réel désengagement des États-Unis de la défense européenne au sein de l'OTAN. Pour autant, l'opposition entre AKK et Macron est, je crois, beaucoup plus verbale qu'elle n'est sur le fond, et elle s'appuie sur un malentendu sur la notion d'autonomie stratégique. Les Allemands ont fait semblant de croire que le président Macron, en parlant d'autonomie stratégique, envisageait un découplage.
On arrive malheureusement, Hélène Millard de Lacroix, je suis obligé de vous interrompre malheureusement, mais on comprend que ce dossier sera très important à suivre tout au long de cette année, ce débat sur l'autonomie stratégique. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire et de civilisation de l'Allemagne contemporaine à la Sorbonne. Vous avez signé avec Andreas Wirsching, Ennemi héréditaire, un dialogue franco-allemand aux éditions Fayard.
Pour la fin d'année, offrez-vous France Culture. Des philosophes amoureux, des animaux, les dernières nouvelles de l'univers.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
C'est l'un des plus grands romans d'aventure du 19e siècle. Le Capitaine Fracasse, sur France Culture.
Je ne saurais paraître sur un pied digne de mon nom. Je ne sais même pas, en réunissant toutes mes ressources, si je pourrais arriver jusqu'à Paris.
Vous n'êtes pas obligé d'entrer triomphalement dans la grande ville.
Déclaration d'amour à la langue, le style précieux des salons comme l'argot des tavernes. Suivons-le, Vent debout, Le Capitaine Fracasse de Théophile Gauthier. Le feuilleton, de lundi à vendredi à 20h30 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Le virus de la Covid, je ne sais pas vraiment quand je le croise, mais je sais qui j'ai croisé. Alors, si je suis testé positif, je m'isole et je communique la liste des personnes avec qui j'ai été en contact à mon médecin traitant et à l'assurance maladie pour qu'ils puissent les alerter. En parallèle, j'alerte moi-même sans attendre mes collègues de travail, ma famille, mes amis. Plus vite ils seront informés, plus vite ils pourront s'isoler eux-mêmes et éviter d'infecter d'autres personnes. Oui, en identifiant les personnes à risque, j'aide à ralentir la propagation de l'épidémie.
Tester, alerter, protéger. Le bon choix, c'est de faire les trois. Ensemble, continuons l'effort. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
Vous écoutez France Culture, il est 6h58, c'est l'heure de vous retrouver, Hervé Gardel, bonjour.
Bonjour Anthony Huster.
Alors, votre billet d'humeur aujourd'hui, du père Fouettard au cartel de Cali.
Oui, quiconque a soit des enfants en bas âge à la maison, soit travaillé sur la dissuasion nucléaire, sait à quel point la menace de sanctions est un art à manier avec précaution, au risque de provoquer un résultat contraire à celui recherché. Il faut à la fois maîtriser le niveau de la menace et son timing pour que celle-ci soit efficace. Ainsi, lorsque vous convoquez le père Fouettard, preuve que vous n'êtes plus tout jeune, pour faire peur aux enfants, s'il ne vient pas, ce qui se passe dans la plupart des cas, vous aurez à chaque fois plus de mal à convaincre les petits que « mais si, je t'assure, il existe et il est très méchant ». Dans le cas de la dissuasion nucléaire, celle-ci repose sur le fait que votre adversaire est convaincu que, le cas échéant, vous êtes prêt à appuyer sur le gros bouton rouge et que vous pouvez le faire à tout moment. Pour l'instant, ça marche. Pour l'instant. Et bien voilà à quoi me fait penser la perspective d'un troisième confinement. Perspective qui peut être perçue comme une forme de sanction dans la mesure où elle ne fait envie à personne et peur à tout le monde. À la radio, hier, un journaliste évoquait les propos d'un proche du pouvoir pour qui la menace d'un reconfinement aurait des vertus dissuasives. Cela empêchera les gens, selon lui, de faire n'importe quoi d'ici la fin des vacances. Mais en sommes-nous si sûrs? Je viens de regarder sur Netflix la série Narcos consacrée au cartel de la drogue en Colombie. Dans la troisième saison, les chefs du cartel de Cali passent un accord avec les autorités. Ils ont 6 mois pour se rendre en échange de peine de prison allégée. Comment croyez-vous qu'ils occupent ces 6 derniers mois? Eh bien en accentuant leur trafic de cocaïne, histoire de s'en mettre plein les poches avant de rentrer dans le rang. C'est ce qui va causer leur perte. Eh bien s'il ne nous reste que quelques jours avant de devoir rester à nouveau à la maison, n'allons-nous pas être tentés, nous aussi, d'en profiter au maximum en allant voir nos familles et nos amis en faisant la bomboche plutôt que d'être prudents? Qu'allons-nous faire en attendant le retour du père Fouettard?